esprit consolateur, remplis notre vie d'allégresse. Amen.
La patience et la persévérance sont toujours payantes et donc nous arrivons à la fin de nos peines. Voilà, rassurez-vous, c'est le dernier cours, mais ce dernier cours, comme vous allez le voir, porte en lui la promesse de beaucoup d'autres travails et beaucoup d'autres cours, beaucoup d'autres choses à découvrir. Mais là, je ne veux pas anticiper ce que je vous dirai tout à l'heure. Voilà, donc c'est évidemment le dernier chapitre de Saint-Luc. Hein. Nous avons suivi tout simplement les chapitres de l'Évangile, le chapitre 24. Et ça tombe très bien, parce que nous avons vu les récits de la Passion juste avant le temps liturgique de la Passion. Maintenant, nous voyons les récits de la Résurrection. Comme vous vous souvenez, d'ailleurs, il reste des cours numéro 1, 4 et 6. Voilà, s'il y en a qui n'ont pas et qui veulent récupérer à la fin, vous ferez ça à la fin. Mais voilà. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais pas mal... Voilà, on va plutôt faire à la fin.
Ah, pardon, la sœur m'a dit que je pouvais.
La sœur a dit que d'accord. Alors, si la sœur a dit, voilà, il y a l'autorisation de la sœur. Voilà. Vous vous souvenez, j'avais beaucoup insisté sur quelque chose d'assez caractéristique chez Luc, chez Saint-Luc, c'est sa manière de mettre en avant l'attitude des personnages face au Christ, face à la passion du Christ, hein, le refus ou la fidélité ou des attitudes ambiguës. Bref, on voit comment le lecteur est entraîné à d'une certaine manière, à prendre position. Et il y a cette figure centrale de Pierre qui montre qu'un retournement est toujours possible. Hein, pour celui qui est prêt à accueillir la miséricorde, eh bien, il y a cette joie du royaume qui s'ouvre, hein, la joie de la résurrection. Et c'est précisément de cela que nous parlons aujourd'hui, la résurrection de Jésus qui est rapportée par Saint-Luc à travers deux séries de faits, la découverte du tombeau vide et les apparitions du ressuscité. Il va de soi que il n'y a pas de... J'emploie le terme de récit de la résurrection, mais le terme n'est pas très juste, parce qu'en fait, il n'y a pas de récit de la résurrection. Il y a des récits, des rencontres du ressuscité. Évidemment, personne n'a assisté à la résurrection. Alors, c'est un autre sujet que nous n'abordons pas là et qui n'est pas le centre de la pensée de Saint-Luc, quoique, hein, vous allez voir avec ce qu'il dit sur le cheminement intérieur des disciples... on voit bien que, en l'absence de la participation à un événement qui échappe à la saisie de l'homme, eh bien, il y a au contraire tout un travail intérieur pour reconnaître l'événement de la résurrection. Alors, je vais suivre simplement cet ordre, ces deux séries de faits, la découverte du tombeau vide, les 12 premiers versets, et ensuite, ce qui est plus important encore, les apparitions de Jésus, avec notamment l'épisode tellement caractéristique des disciples d'Emmaüs. Tout d'abord, le tombeau vide. Alors, le récit, le tombeau vide, on le connaît assez bien. Après le sabbat, les femmes se rendent au tombeau avec un petit coup d'audace, un peu une folie, puisque la pierre est roulée. Qu'est-ce qu'elles vont faire au tombeau? Elles doivent bien attendre quelque chose. Hein, on a envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous comptez y faire? Et là, en arrivant au lieu du tombeau, elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Elles trouvèrent la pierre roulée, ça correspond à ce qu'on a trouvé en Terre Sainte, pour ceux qui y sont allés, ces grandes pierres rondes, hein, qu'on roulait sur une espèce de rail. On a encore, c'est encore très visible sur une tombe près du King's David Hotel. S'il y en a qui sont allés à Jérusalem, c'est la tombe de la famille Hérode. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette tombe qu'on voit encore très bien? Oui? Ça vous, évidemment, ceux qui sont allés avec moi, ils savent. Voilà. Les autres, eh ben, venez cet été. Voilà. Petit coup de pub, tout simplement. On voit, quand vous allez près du King David, hein, on se figure très bien, une espèce de jardin, et on voit la tombe comme ça. Hein. Alors, on ne va pas vous raconter qu'on est obligé de retirer les canettes de bière et les saletés, parce que c'est un peu des saletés qui s'accumulent. On retire et on y est. Voilà. Petit coup de pub pour l'été prochain. Alors, certains ont dit la pierre ronde, vous savez, la pierre qu'on roule, ce qui montre que les évangiles ont été inventés de toutes pièces, c'est qu'en fait, ces fermetures, ces pierres rondes, c'est typique des tombeaux royaux. Or, Jésus, il n'y a pas de raison que ce soit une tombe royale. Hein, c'est la tombe de Joseph d'Arimathie. Donc, ça montre bien que ça a été inventé, qu'en fait, pour Jésus, il n'y avait pas une pierre roulée. En fait, on a trouvé des pierres rondes dans des tombes qui sont absolument pas royales, comme à Nazareth. Hein, donc, l'argument, vous savez, tous les arguments qu'on a essayé de sortir pour dire les évangiles ont été inventés de toutes pièces, en réalité, c'est tout à fait possible. Enfin, c'est même ce que disent les évangiles. Il y avait bien une pierre qu'il fallait rouler. Et c'est ce que dit le récit, hein, que confirment les pierres que l'on voit comme ça. Alors, ce qui est important dans le récit, c'est que Saint-Luc, qui nous a habitué à être attentif au regard des témoins oculaires devant les événements, va parler du regard des femmes. Hein, c'est très important. Les femmes ont vu que Jésus était mort. Donc la question du regard, hein, parler des témoins oculaires. Les femmes ont vu que Jésus était mort. Elles ont vu qu'il a été mis au tombeau. Très important parce que il y a deux aspects dans la mort de Jésus qui d'ailleurs sont repris dans le credo de saint Paul au chapitre 15 de la première aux Corinthiens et qui sont repris dans notre credo de Nicée-Constantinople. Deux aspects qui sont très importants à propos du témoignage de la mort de Jésus. D'une part, il est mort et d'autre part, si vous me permettez l'expression, il a été mort. C'est-à-dire qu'il y a une durée. Il y a un acte par lequel Jésus est entré dans la mort, ça c'est ce qui se passe sur la croix, et on nous dit que les femmes en ont été témoins, et il y a comme un acte, celui de la grande passivité de Jésus, où il n'a été, ce qui est assez saisissant de le dire, mais qu'un cadavre. Hein, il y a le corps de Jésus, il est entré dans la mort, hein, on le dit, hein, il a été enseveli, hein, mort sur la croix, enseveli. Il faut beaucoup y réfléchir, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas simplement l'acte par lequel Jésus assume notre mort, la violence de la mort, mais il y a aussi une durée. Les théologiens ont beaucoup réfléchi dessus, ce n'est pas tout à fait notre sujet, mais le regard des femmes va porter sur, d'une part, le fait que Jésus est mort, et sur le fait qu'il a été mis au tombeau. Très important, parce que ces mêmes femmes, qui sont les témoins, hein, qui ont pu rester proches de la croix, je vous l'ai dit la dernière fois, les apôtres sont partis, est-ce par lâcheté? Est-ce parce que, ça on le sait par les sources, Flavius Joseph, les hommes étaient spontanément suspects de pouvoir prendre les armes. Et donc c'est eux qui se retrouvaient prisonniers aux galères, etc. Donc les apôtres savaient qu'il valait mieux qu'ils s'en aillent. Hein. Comme ça, quand on dit les apôtres s'en vont, c'est par lâcheté. On le dit, c'est pas marqué dans l'évangile. Hein. Il y a peut-être de la lâcheté, mais il y a aussi le fait que les hommes étaient des rebelles potentiels, ce qui n'était pas le cas des femmes. On dirait qu'il n'y avait pas de parité, c'est pas une honte. Voilà, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, les femmes ont pu rester, mais je crois qu'on peut penser aussi qu'elles avaient cette fidélité qu'elles ont toujours montrée vis-à-vis de Jésus, et jusqu'au bout, elles ont eu ce courage de rester. Si vous allez à Jérusalem cet été, vous verrez, il y a au Saint-Sépulcre un endroit, une chapelle, la chapelle du regard des femmes qui regardaient Jésus sur la croix. Hein, c'est les Arméniens qui... voilà, un petit édicule sur la gauche quand on entre au Saint-Sépulcre. Voilà. Donc, ce regard des femmes, eh bien, maintenant, elles regardent la pierre roulée devant le tombeau. Hein, et un regard sur le tombeau d'où est absent le corps de Jésus. Hein, on voit comment ce regard va prendre toute sa force. Hein, parce qu'elles ont une sorte de traçabilité des événements, et elles ont vu, et elles voient un tombeau vide. Évidemment, c'est voir un tombeau vide, ça, pour elles, ça va vouloir dire quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire devant un tombeau vide? Est-ce qu'il y a juste une absence à constater? Un tombeau vide, en fait, ça ne veut rien dire. Hein. En soi, ça ne veut rien dire. Ça ne montre rien, ça ne prouve rien. il y a quelqu'un qui a été mis, mais ce n'est pas parce que le tombeau est vide qu'on enfin, on va en déduire quoi que ce soit. Peut-être que certains ont emporté le corps, peut-être qu'on l'a déplacé, peut-être que ce n'est pas suffisant. Donc il y a pour l'instant simplement un constat. Deux hommes qui se tiennent devant le tombeau, notre lecture des Écritures et toute l'iconographie nous a tellement habitués à voir des anges qu'on parle des anges, mais ce sont les disciples d'Emmaüs qui plus tard parleront des anges. En réalité, on dit deux hommes, hein, ce qui dans certains évangiles peut prendre un certain sens. Deux hommes, on va retrouver deux hommes sur la route d'Emmaüs, on va retrouver deux hommes, ça veut dire deux témoins, hein, dans le Deutéronome, il faut deux hommes pour témoigner. Voilà, deux hommes qui se tiennent près du tombeau, qui orientent l'attention des femmes, non plus vers le tombeau, mais vers leur propre cœur. Hein, les hommes pourraient dire « regardez », hein, les femmes l'ont déjà fait. En fait, ces deux hommes vont les renvoyer à leur propre cœur. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Hein, donc c'est les femmes qui sont remises en cause. Okay. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher ? Elle cherche en tout cas dans une mauvaise direction. Il leur a fallu éprouver l'absence du corps, on peut dire que c'est la première étape, il n'est pas là, pour se rendre compte qu'elles font fausse route et qu'il faut chercher ailleurs. Jésus n'est pas là où elles le pensent. On peut dire d'une certaine manière qu'on a quelque chose d'analogue avec Marie-Madeleine dans Saint Jean, quand elle regarde le tombeau, elle entend la voix, mais elle est incapable de comprendre. Il faut faire cette épreuve de voir que quelquefois nous cherchons le Seigneur là où il ne le faut pas. Et il n'est pas là, il n'est pas chez les morts, il n'est pas parmi les morts. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il est le vivant. C'est un procédé en plus qui est très dans les évangiles, dans la Bible, est très fréquent dans la manière de s'exprimer dans le judaïsme. Notre manière rationnelle occidentale fait que quand on va avoir une proposition, elle va se suffire à elle-même. Jésus est le vivant. Dans la Bible, on va dire Jésus est le vivant, il n'est pas parmi les morts. On a ça par exemple à propos de Jean-Baptiste. Jésus, par exemple, Jean affirma, il ne nia pas. Vous voyez, comme c'est, il faut les deux affirmations pour qu'il y ait du relief. Il est le vivant, il n'est pas ici. Avec une insistance sur le « ici », ça veut dire le lieu où il a été déposé. Il n'est pas au lieu de la mort, il n'est pas ici, là où on l'a mis. Désormais, il est vivant. Et c'est après ce petit cheminement, cette épreuve de l'absence du corps du Christ, ici, il n'est pas ici, c'est là que peut résonner la nouvelle, il est ressuscité. Il est ressuscité. Vous voyez, c'est très très important, parce que aujourd'hui, dans certaines mauvaises exégèses ou mauvaises théologies, on va vous dire, Jésus est vivant dans le cœur des croyants, il est vivant dans l'Église, il est vivant parce que l'Esprit Saint a été répandu, mais il est vivant, il est le vivant, mais il est toujours au tombeau. Il est toujours au tombeau, son corps est toujours là, mais ce n'est pas gênant du moment qu'il vit dans nos cœurs. Vous savez, un peu comme quand il y a quelqu'un qui est décédé, eh bien, les petites prises de parole pendant les obsèques, on va dire, papy, mamie, tu es toujours là, tu es toujours vivant dans nos cœurs. Oui, mais enfin, la personne, elle est défunte, quoi. Oui, Jésus, il est peut-être vivant dans nos cœurs, sûrement, mais il n'est pas au tombeau. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il y a la question de où est le corps de Jésus. Il suffit pas de dire il est le vivant. Il n'est pas ici. Ce n'est donc pas dans la tombe que les femmes trouveront la réponse à leurs troubles. Elles sont troublées. Elles étaient saisies d'effroi, le visage incliné vers le sol. Ce n'est pas dans la tombe, ce n'est pas finalement à l'extérieur d'elles-mêmes qu'elles trouveront la réponse, mais en passant par l'intérieur, en faisant appel à leur mémoire. Ça, c'est très, très important. Donc, ce n'est pas à l'extérieur. Le constat, c'est qu'à l'extérieur, il n'est pas là. Il était ici, il n'y est pas. Donc, la recherche doit prendre une nouvelle direction. La recherche doit passer par la mémoire. Se souvenir des paroles de Jésus. Quand il était encore en Galilée, Il avait enseigné qu'il fallait que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors vous me direz, Jésus s'était adressé aux apôtres, mais nous n'oublions pas que les femmes faisaient partie du groupe qui suivait Jésus, qui était aussi avec Jésus, ou si c'est un moment où Jésus était à part avec les apôtres, ils ont transmis aux femmes. En tout cas, les trois annonces de la résurrection leur sont parvenues. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Alors, il y a un petit jeu de mots en grec qui est intéressant. Comme le public ici est assez stable, mais quelquefois des nouveaux, est-ce que nous avons des hellénistes ? D'accord. Alors, ça me permettra de dire ce que je dirais sans que personne rectifie. Donc, j'y vais gaillardement, j'y vais joyeusement. Si je me plante, eh ben je crois que ça m'était arrivé l'an passé de vous dire une erreur. Donc, j'évite de... Voilà. Mais ça, c'est un point qui est important. Dans le grec classique, un mnémeion, le mot mnémeion, c'est un mot qui signifie un signe pour rappeler un souvenir, un monument commémoratif. Alors, ça va donner mnémotechnique, bravo, vous anticipez tout à fait, un mnémotechnique, voilà. Signe pour rappeler un souvenir, évidemment, on l'a traduit par tombeau, donc dans tombeau, on n'insiste pas sur la mort, on insiste sur le monument qui rappelle la personne qui nous a quittés. On peut traduire par souvenir. En grec, faire mémoire, justement, on a le même mot avec le « mi » qui est un partitif du tombeau. Du tombeau. Mimneskomai. Mimneskomai. Faire sortir du tombeau. Se souvenir, finalement, c'est faire sortir du tombeau. L'oubli, c'est une tombe. Le souvenir, je fais sortir de cet oubli, je fais sortir de la tombe. Donc, il y a un jeu entre « Jésus n'est pas dans le tombeau » Il faut se souvenir de ce qu'il vous a dit. Vous voyez, la langue de Saint-Luc est très très fine. C'est le même sens d'ailleurs, anamnésine, mnéméia. Ana, ça veut dire vers le haut. L'anamnèse, on va ramener la mémoire vers le présent, vers le haut. Vous voyez, voilà. Donc, faire un travail de mémoire. Souvenez-vous, avec ce parallèle, il n'est plus dans le tombeau. Les femmes... ont donc ce rappel qu'il aimait déjà sur la piste. Les paroles de Jésus qui annonçaient ce qui devait se passer, la résurrection le troisième jour. Les femmes vont donc rapporter aux apôtres ce qui vient de se passer, mais leur témoignage n'aboutit à rien. Ces propos leur semblèrent du radotage et ils ne les crurent pas. Voilà. Alors là, même si vous restez de marbre les uns les autres, les femmes se disent « ça y est, encore les hommes se disent que nous radotons ». Et puis, on imagine les apôtres entre eux « ouais, c'est du radotage, ces histoires de... » Voilà, un grand classique. Voilà, un grand classique dans l'histoire de l'humanité. On ne changera ni les hommes ni les femmes. Mais on imagine comment elles arrivent. Mais en fait, peut-être de manière peut-être un peu plus profonde, il y a quelque chose de totalement inédit. Même pour les femmes, complètement inédit, même si elles étaient à la tombe. En fait, on apprendra plus tard, sur le chemin d'Emmaüs, ça c'est très beau de lire le récit comme ça, à plusieurs détentes, c'est qu'en fait, leur témoignage a beaucoup stupéfié les disciples. Vous savez, quelquefois on dit des choses aux gens, oui, autant vous n'en pas trop passé, puis après on apprend qu'en fait, ce qu'on a dit a beaucoup porté, ça rassure. Vous voyez, des fois je parle, je dis des trucs, et après coup, finalement, c'était peut-être pas mal que je le dise. On n'a pas tout de suite la réaction, donc ça leur semblait du radotage, n'empêche que ça a fait son bout de chemin. Les disciples d'Emmaüs diront, oui, les apôtres ont été stupéfiés. Pierre, en responsable de la communauté, va lui-même sur place pour se rendre compte. On imagine cette émotion qu'il habite. Sa course traduit l'émotion qu'il habite, comme les autres disciples. La parole des deux hommes, aux femmes, fait son chemin en lui. Il arrive, il voit comme les femmes, mais il ne trouve rien. Il ne voit que les linges. Ça intéressant d'ailleurs, cette question des linges, je ne m'y attarde pas, mais sur le mode de résurrection. Jésus n'est pas parti avec les linges restent posés, c'est saint Jean qui va nous donner les indications sur le fait que tout est rangé, tout est en place. Jésus n'est plus enserré par ce vêtement, il faut bien se souvenir que le vêtement dans la Bible, c'est toujours la personne, donc il y a cette nouveauté complète du Christ ressuscité. Mais en tout cas, Pierre n'a rien d'autre à faire que de revenir chez lui, tout surpris de ce qu'il vient de voir. Donc pour l'instant, on est dans une situation un peu à mi-chemin. Les Pierre et les femmes, ils sont pareils, ils sont à mi-chemin. Ils ont leur surprise, ils ont quelques indications, mais ce n'est pas suffisant. On peut dire que le terrain a été préparé. Ils ont à leur disposition, à ce moment-là, la déclaration des deux hommes annonçant que Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On voit bien que ce n'est pas facile. Parce que déjà, pour nous, chez les chrétiens, on voit qu'on dit à des personnes « Jésus est ressuscité ». Ce que je disais tout à l'heure, veut dire « Jésus est ressuscité », bien sûr, il est ressuscité dans le fait que les hommes sont gentils les uns avec les autres, qu'on fait communauté, on fait église. Peut-être qu'il y a autre chose. Voilà. Donc, il y a la déclaration des deux hommes, annonçant que Jésus est ressuscité, il y a la mémoire des paroles de Jésus qui dit des choses déjà peut-être un peu plus précises. Jésus a annoncé sa résurrection après sa passion et sa mort, donc faisant bien le lien avec les événements de la passion, donc cette continuité. Finalement, il ne leur reste que leur étonnement. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'ils rencontrent Jésus, le vivant par excellence, pour comprendre ce que veulent dire les paroles des deux hommes, il est ressuscité. Alors nous arrivons à la partie centrale, la partie la plus importante. On peut dire que cette découverte du tombeau vide et les paroles de l'ange et le travail de mémoire sont, d'une certaine manière, préparent le terrain pour pouvoir accueillir Jésus. Et même là, on va le voir, il y a un cheminement à accomplir. Pour que l'évangile, j'allais dire, atteigne son but, eh bien, il faut atteindre le cœur. Il faut qu'il y ait un retournement du cœur. Il ne suffit pas de dire « Jésus est ressuscité », tant pis pour les apôtres, ils ne l'ont pas reconnu. La reconnaissance de la part des apôtres est très importante, parce que Jésus a lié son sort à celui des apôtres, à celui de l'Église. Donc, que les apôtres reconnaissent Jésus ressuscité, on est là devant un véritable enjeu tout à fait fondamental. Il faut qu'il y ait un accueil dans la foi pour que s'opère une reconnaissance et que Jésus puisse ainsi être accueilli comme le ressuscité. Très important de bien comprendre que si je parle de la nécessité de cet itinéraire de foi, de ce retournement du cœur, c'est pas pour dire que les disciples vont ensuite inventer l'histoire. Il y a bien un fait objectif. C'est pas une projection des disciples tentant de se rassurer en créant un mythe, comme on a pu le trouver dans une certaine exégèse, chez Bultmann par exemple. Il n'y a pas on va pas créer un mythe pour trouver une issue à l'histoire de Jésus. C'est un événement qui survient, qui surgit dans sa nouveauté, mais ce n'est pas un événement isolé. Si aujourd'hui nous pouvons parler de la résurrection, c'est parce que il y a eu des disciples qui ont pu reconnaître Jésus ressuscité, qui ont fait un itinéraire intérieur qui leur permet d'attester qu'il est vivant. Cela est fondamental. Cela est fondamental. La foi de l'Église, notre foi repose sur la foi des apôtres. Notre foi n'est pas des gens qui disent « je me passe de l'Église ». Je leur dis « bravo, je vous laisse vous débrouiller tout seul, je ne sais pas comment vous débrouiller, avec Jésus il y a 2000 ans sorti du tombeau, moi j'ai besoin de l'attestation dans l'Esprit Saint des disciples de Jésus, des femmes, des apôtres, qui l'ont vu mort et ressuscité, et qui peuvent me dire « cet événement qui vient de Dieu, qui est de Dieu, est entré dans notre histoire, est inscrit dans notre histoire ». Il faut sortir d'une approche purement positiviste qui marque notre mentalité occidentale, une espèce une extériorité des faits qu'il suffirait de transcrire par écrit. En réalité, il n'y a pas une pure extériorité. Tous les événements de la vie de Jésus peuvent être reconnus dans leur vérité s'il y a des cœurs prêts à le reconnaître. Et donc la foi des disciples est fondamentale. C'est pour ça que l'évangile ne s'arrête pas au fait que Jésus est ressuscité. L'évangile continue pour raconter comment les apôtres ont fini par accueillir cette bonne nouvelle et reconnaître le ressuscité. Il y a un itinéraire à accomplir. Ça, je crois que c'est très simple. C'est très simple. S'il n'y avait pas eu les disciples, s'il n'y avait pas eu ce chemin de reconnaissance, il n'y aurait pas l'Église et nous ne connaîtrions pas le Christ. C'est tout. Voilà, Jésus serait dans la gloire, ce serait très bien, mais il n'y aurait pas eu le mouvement missionnaire dont je parlerai tout à l'heure. Alors les deux disciples d'Emmaüs, ensuite, ce sera l'apparition aux apôtres et l'envoi en mission. Les disciples d'Emmaüs. Alors, avec les disciples d'Emmaüs, c'est un récit qui est remarquablement bien construit et je suis un peu navré de vous le raconter si vite, si mal, en ramassant les idées les unes après les autres, mais il faut prendre le temps de voir comment il est construit. Hein, Luc est quelqu'un qui écrit d'une manière tout à fait habile, intelligente. Hein. Il prend un peu distance par la différence des autres apôtres par rapport à la matérialité des événements. Il a sa manière d'écrire. Hein. Il faut se rappeler ce qu'il disait dans l'introduction. « J'ai voulu te mettre par écrit ce récit ordonné. Hein, » mais parce qu'il a son projet. Hein. Voilà. Alors, la première chose, le point de départ hein, de ce récit, qui va jouer dans la tête du lecteur de l'Évangile, hein, c'est qu'on a passé plusieurs versets à voir l'absence du corps de Jésus, je dis bien l'absence du corps de Jésus vu par les femmes ont vu une absence. Avec les disciples d'Emmaüs, il y a la présence du corps de Jésus. Et les disciples ne voient pas. C'est extraordinaire. Voilà. Il n'est pas là, vous voyez, il n'est pas là. Disciples d'Emmaüs, c'est il est là. Mais ils ne le reconnaissent pas. Question de la vision. Qu'est-ce que c'est que voir? Voilà. Alors, premier point, dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, Luc fournit toutes les informations nécessaires pour que l'annonce de la résurrection soit faite. Toutes les informations nécessaires, ça veut dire les disciples d'Emmaüs vont raconter, vont dire tout ce qui s'est passé. Il y a matériellement tous les événements. Comme dans l'histoire contemporaine, l'histoire aujourd'hui, depuis le 19e siècle, hein, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Eh bien, c'est de rapporter de manière factuelle, objective, absolue, les événements. On vous les rapporte, mais ça peut être... voilà, les disciples d'Emmaüs sont incapables d'en comprendre la cohérence. Les disciples d'Emmaüs sont capables de raconter les événements, c'est ça qui est extraordinaire, des événements dont ils ne comprennent pas le sens. C'est-à-dire, vous me direz, un couteau pour couper le beurre, c'est évidemment un couteau pour couper le beurre. Vous mettez une poule devant un couteau pour couper le beurre, et la poule, elle voit bien le couteau, donc c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle comprend au couteau à couper le beurre? Mais c'est exactement ça. Une poule devant un couteau à couper le beurre. Qu'est-ce qu'elle en a à faire? Qu'est-ce qu'elle en comprend? C'est-à-dire que c'est une extériorité absolue, comme les disciples d'Emmaüs, avec des événements qu'ils racontent, mais qui sont aussi extérieurs à eux qu'un couteau à couper le beurre sera extérieur à la poule, qui au bout d'un moment retournera dans son poulailler en disant tout ça n'a aucun sens. Voilà. Les disciples d'Emmaüs disent voilà ce que les femmes nous ont raconté, voilà ce que les disciples ont raconté, mais enfin, on est là et on pense que tout est fini. Hein. Et Luc use vraiment de cette ironie. Hein. Quand je parle de la poule avec le couteau à couper le beurre, c'est Luc lui-même. Hein. Ils ont devant eux, écoutez bien les paroles des disciples, tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui est arrivé ces jours derniers. Disent-ils au seul qui précisément sait mieux que quiconque ce qui s'est passé. Hein, il se tient devant eux. Donc il y a vraiment une ironie. T'es bien le seul. T'es vraiment le seul. T'es pas très malin. T'es pas au courant, en fait. T'es vraiment bien le seul à ne pas être au courant. Tu es bien le seul à savoir, en réalité. Voilà. Hein. Ce qui veut dire que le témoin oculaire... Hein, ce n'est pas la poule devant le couteau à couper le beurre. Le témoin oculaire, c'est pas simplement celui qui a vu matériellement. Hein. Luc accroche de cette manière l'attention du lecteur. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, on rigole bien. On se dit franchement, ils sont nuls. Ils sont nuls comme la poule. Ils sont vraiment imbéciles. Pourquoi ? Parce que moi, je sais. Moi, je sais. C'est ce qu'on appelle dans l'exégèse narrative le lecteur omniscient. Le lecteur sait. Les personnages ne savent pas. Donc il y a un jeu pour que le lecteur se dise vivement qu'on connaisse la suite et on connaît à peu près l'issue et on sait ce qui est en train de se passer. On voit les deux disciples de haut, hein, on peut imaginer la scène, hein, je vois deux petits personnages, je les regarde de haut, je dis franchement, ils sont pas malins, hein, ils pourraient essayer de faire quelques efforts. Voilà. Mais en tout cas, il se trouve que eux, avec les événements qu'ils ont et la temporalité qui est la leur, c'est-à-dire eux, dans l'histoire, ils sont contemporains des événements. Ils ne sont pas en mesure de comprendre ce qui se passe. Hein. Donc le lecteur, à ce moment-là, surplombe le récit. Hein. Il est omniscient, il sait. Deuxième point, Jésus, sur cette base-là, va interpeller les deux disciples en faisant appel à leur mémoire, comme les deux hommes près du tombeau. Au cœur sans intelligence. Comme je vous l'ai dit, c'est dans le cœur que tout va se jouer. Lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Alors là, il y a un terme qui est très important. On va faire du grec, c'est « edei » en grec. « Edei », il fallait. Ne fallait-il pas ? Caractéristique de Luc, nous l'avons rencontré à propos des femmes au tombeau, hein, les anges, Jésus avait dit qu'il fallait qu'il soit livré aux mains des hommes, crucifié, etc. Et là, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances ? En fait, il fallait, ça ne veut pas dire, c'est pas le il faut qui s'imposerait comme s'il y avait un destin, évidemment l'idée est tout à fait extérieure aux évangiles. Hein, ce « il faut » caractéristique de saint Luc renvoie à la cohérence du plan divin, du plan de Dieu, hein, que saint Luc a décidé d'exposer à Théophile, son lecteur. Hein. Il y a une cohérence du projet de Dieu, et quand Jésus dit « ne fallait-il pas », il renvoie à cette cohérence du projet de Dieu. Donc Jésus va resituer les choses dans la globalité de l'histoire du salut. Hein, je vous rappelle, hein, je vous renvoie à notre première soirée, hein, je vous avais dit, Luc est un historien, non pas au sens positiviste qui est le nôtre aujourd'hui, mais un historien au sens où il veut montrer la cohérence des événements du salut, des événements de l'histoire. Et donc, pour comprendre cette cohérence du plan divin, eh bien, il faut relire les prophètes, les Écritures, avec le cœur, pour entrer dans l'intelligence de ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, ça rappelle aussi l'introduction de saint Luc, quand il disait les témoins oculaires qui ont voulu raconter les événements, les pragmata. Les événements, on part de choses très concrètes. Il s'agit de faire remonter de sa mémoire, mimneskomai, anamnésine, comme on disait tout à l'heure, faire monter du tombeau, faire remonter de sa mémoire ce que Dieu a dit par le passé, qui permet d'éclairer le présent. Vous voyez, des événements qui nous surviennent dans notre vie, douloureux, difficiles, surprenants, incompréhensibles, quand on va prendre le temps de relire, en partant du début, en mettant les événements les uns après les autres, les choses vont se remettre en place. Et là, on va découvrir une cohérence plus haute. Ça, nous en faisons déjà l'expérience. Eh bien, Jésus va faire ce cheminement, mais du point de vue de la révélation, c'est-à-dire du projet de Dieu. Et là, le cœur va se dilater et va être en mesure de comprendre davantage. Lire les prophètes avec le cœur, non pas faire du concordisme en disant « c'est marqué, il y a telle phrase, il y a des personnes qui font ça, il y a telle phrase, ça s'est accompli exactement dans les évangiles ». Ça, c'est d'une sécheresse, d'une pauvreté. C'est pas forcément faux, il y a des correspondances. Mais évidemment, Jésus propose une lecture infiniment plus large. Faire remonter de sa mémoire ce que Dieu a dit par le passé, qui permet d'éclairer le présent, c'est l'exercice que Jésus fait faire aux deux disciples. Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est intéressant, vous allez dire, dans toutes les Écritures, alors quand on dit les Écritures dans le Nouveau Testament, ça veut dire... L'Ancien Testament, hein, la Bible, l'Ancien Testament, et ben, toutes les Écritures, vous allez dire, mais ça ne concerne pas Jésus, ça concerne le peuple d'Israël, ça concerne les patriarches. Mais précisément, hein, parce que l'exercice que fait faire Jésus, c'est celui que l'Église ne cesse de faire en lisant les Écritures, en faisant ce qu'on appelle un acte d'herméneutique, hein, de faire jaillir ce qui est caché dans le texte, hein, c'est l'exégèse des pères de l'Église, qui est si riche, qui a tellement irrigué toute la pensée chrétienne. C'est ce que dit saint Augustin, le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien, et l'Ancien apparaît dans le Nouveau. Novum Testamentum in vetere latet, et Anticum Testamentum in novo patet. Hein, voilà, il était caché, il apparaît. Herméneutique, hein, le verbe interpréter, diherméneo, hein, qui va donner herméneutique. Herméneutique, c'est l'exégèse, c'est essayer de voir la structure interne du texte, l'intention du lecteur. L'herméneutique, c'est faire sortir le sens, faire jaillir le sens. Voilà. Troisième point. Alors ça, c'est un point très important. L'exégèse narrative va beaucoup insister dessus, parce que l'exégèse narrative essaye de montrer comment le récit est construit pour provoquer le lecteur. C'est ça, l'exégèse narrative. Le récit est construit comme un roman, comme une histoire, pour que le lecteur se sente un peu entraîné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le lecteur voit les deux disciples s'éloigner. Jésus se mit à leur expliquer. Après ce dialogue où le lecteur, un peu sûr de lui, avec son humour, dit franchement, ils sont un peu nuls, moi je sais. Mais vous pouvez représenter exactement comme dans une scène de cinéma. On voit Jésus avec les deux bons hommes, dit bon, les gars, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Et il se mit à leur raconter les Écritures, tout ce qui le concernait. Et on les voit s'éloigner dans le lointain. Et comme dans un film, la voix se fait de plus en plus petite et disparaît. Et là, il y a le lecteur qui était omniscient, qui n'entend plus rien. Pouvez-vous me dire ce que Jésus leur a raconté sur l'Ancien Testament? Vous savez ou pas? Moi, je ne sais pas, personne ne sait. On aimerait bien, mais il y en a beaucoup qui disent. Mais j'ai entendu souvent des gens, oui, ce qui est casse-pied dans ce récit, c'est que franchement, Jésus leur a dit des trucs super intéressants, on aurait été au courant, ça aurait été écrit dans les Écritures, ça aurait été génial. Donc tout ce travail de lecteur de l'Ancien Testament à la suite du Christ, comment faire? J'allais dire, les évangiles l'ont déjà fait. C'est déjà ça. Mais pour aller dans la profondeur de la lecture de l'Ancien Testament, en fait, si, nous le savons, ce que Jésus leur a dit. C'est l'Église qui nous le dit. C'est la vie de l'Église. C'est l'Église qui chemine avec le Christ et qui lit les Écritures. C'est pour ça qu'on a refusé le marcionisme, qui voulait rejeter l'Ancien Testament. L'Église relie les Écritures, c'est-à-dire la cohérence du projet de Dieu, à la lumière de Jésus. C'est ce qu'ont fait les pères de l'Église, c'est ce que l'Église fait chaque dimanche à la messe à travers les homélies, à travers son enseignement, le magistère, etc.
Il fallait bien laisser du travail aux pères de l'Église.
Exactement, et pas qu'aux pères de l'Église, mais aux prédicateurs le dimanche. Et puis au magistère, et puis l'Église qui enseigne, qui chemine. Finalement, pour cesser d'être un peu piégé ou humilié en disant finalement les deux disciples qui en savaient moins que moi au début, maintenant ils en savent plus, eh bien vous avez bien compris qu'il s'agit pour moi de faire comme les deux disciples, de cheminer avec Jésus ressuscité. C'est Jésus ressuscité qui ouvre les Écritures. Dans l'Apocalypse, saint Jean dira, c'est l'agneau immolé et debout qui va ouvrir le livre, qui va ouvrir les sept sceaux, qui va ouvrir le sens des Écritures. Travail de mémoire de ce que Jésus a vécu, mais aussi mémoire des Écritures, double mémoire. Mémoire des événements de la vie de Jésus, mais aussi mémoire de l'Ancien Testament, dont on va voir la cohérence. Quatrième point, au terme de la route, Jésus fait mine d'aller plus loin. Il laisse, ça c'est très très beau, la délicatesse de Jésus, hein, vous qui êtes des gens de bonne composition, qui êtes polis, vous savez bien ce que c'est, quelquefois, on ne veut pas s'imposer, on va laisser les personnes, peut-être avec le secret espoir, qui disent « mais vous resterez bien dîner ». Voilà. Hein. Ou alors, vous viendrez bien dans notre maison. Voilà. Il laisse les deux disciples prendre la décision de l'accueillir. Il faut, pour eux, il leur faut aller jusqu'au bout de ce travail de retournement dont ils n'ont pas encore conscience. Ils ont accepté d'accueillir Jésus par la parole. Ils décident maintenant de l'accueillir dans sa personne. Donc, ils franchissent une étape. L'itinéraire que Jésus que leur a fait accomplir en expliquant les Écritures les a menés là où ils ne s'attendaient pas. Hein? Mais avant qu'ils ne puissent mettre des mots sur ce qui s'est passé, leur cœur est déjà tout brûlant. Ils diront, notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'ils nous racontaient les Écritures? Mais sur le coup, ils sont incapables de le dire. Voilà. L'accueil à Emmaüs, alors là, petite parenthèse, rappel de la troisième séance, hein, je vous avais dit, on aime bien inventer les auberges. Peut-être parce qu'on est en France, et qu'on aime bien en France l'art de vivre, les bonnes tables, voilà. Vous vous souvenez, on parle toujours de l'auberge où Marie est, qui a refusé Marie et Joseph, alors qu'il n'est pas du tout question d'auberge, hein. Ben, il n'est pas du tout question d'auberge d'Emmaüs, hein. C'est nous qui avons... Je vais vous dire, il y a un exercice passionnant, vous pouvez le faire chez vous. Dites, je vais écrire, par exemple, l'histoire des disciples d'Emmaüs. Vous écrivez l'histoire des disciples d'Emmaüs. Puis une fois que vous avez écrit l'histoire des disciples d'Emmaüs, vous regardez dans l'Évangile comment c'est en vrai. Alors, je vais vous dire, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. On projette beaucoup. Il y a l'auberge des disciples d'Emmaüs, c'est dans la peinture. Mais bon, il s'arrête à Emmaüs. Petite parenthèse. Pour montrer que souvent, on fait ce qu'on appelle de l'injection dans le texte. On injecte. Voilà. L'accueil à Emmaüs permet à Jésus d'aller plus loin, mais... non pas sur la route, évidemment, puisqu'ils s'arrêtent, mais dans leur mémoire. Hein, on peut dire que la route d'Emmaüs va se prolonger dans leur mémoire. Le chemin n'est pas fini. Jésus va poser un acte qu'il a longuement préparé en expliquant les Écritures. Pendant le repas, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Tout le monde, évidemment, dit « Mais bien sûr !» Et vous avez raison, Leurs yeux s'ouvrirent, c'est la question du regard. Leurs yeux s'ouvrirent, mais leurs yeux étaient déjà ouverts, puisque sans ça, ils n'auraient pas pu marcher. Oui, mais la parole très importante de Saint-Luc, c'est « leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ». La poule n'est plus devant un couteau à beurre, c'est plus une poule qui est devant un couteau à beurre, c'est une cuisinière qui est enfin devant un couteau à beurre qui dit « ça y est, je sais à quoi ça sert ». Pardon, c'est un peu trivial, mais il faut arriver à comprendre qu'il ne suffit pas de voir les choses matériellement. Voilà, c'est l'aboutissement que Jésus cherchait, celui de la reconnaissance. L'Évangile est là pour nous faire ce travail de reconnaissance. C'est intéressant, c'est pendant le geste de la fraction du pain que les yeux s'ouvrent. L'allusion à l'Eucharistie, vous allez me dire, est évidente. Mais il ne s'agit pas à ce moment-là de l'Eucharistie. Ce n'est pas un cadre liturgique, ce n'est pas la Pâque. Jésus ne va pas comme ça faire le geste de l'Eucharistie de façon inattendue. Et puis, les deux disciples ne font pas partie du groupe des douze. Alors, qu'est-ce qui permet de parler de l'Eucharistie? En fait, ce geste de bénir, rompre le pain, on l'avait déjà à la multiplication des pains, qui était une figure de l'Eucharistie. Et là, les disciples d'Emmaüs pouvaient très bien faire partie du groupe des disciples qui suivaient Jésus. Vous voyez, deux disciples qui suivent Jésus vers Emmaüs, ils font partie de ceux qui ont vu Jésus probablement poser ce geste de façon assez habituelle, et donc ils reconnaissent que c'est Jésus. Et évidemment, avec ces séquences assez caractéristiques, prendre le pain, dire la bénédiction, le rompre et le donner. Qu'on retrouvera évidemment dans le récit de l'Eucharistie, mais qui est caractéristique de Jésus depuis au moins la multiplication des pains. Le lecteur, qui encore une fois, il y a tout un jeu avec le lecteur. Vous voyez, il y a Jésus, les personnages de l'Évangile, mais il y a aussi le lecteur, il y a nous. Et nous, nous nous souvenons, la mémoire que Jésus a dit, « Vous ferez ceci en mémoire de moi ». Chapitre 22. À le moment de la scène. Donc, évidemment, pour les lecteurs, le lien entre l'Eucharistie, l'explication des Écritures et l'Eucharistie apparaît clairement. Et c'est ce qui structure, évidemment, la liturgie de l'Église, où il y a toujours cette relecture des Écritures à la lumière de Jésus ressuscité et qui aboutit à la célébration de l'Eucharistie. Enfin, l'apparition aux apôtres et l'envoi en mission. La résurrection était annoncée. Maintenant, elle va être manifestée par le partage de la nourriture. Entre les deux, il y a eu le chemin d'Emmaüs qui aboutit à la reconnaissance. Premier point, Jésus se tient au milieu des apôtres. Et les premières paroles de Jésus, c'est « La paix soit avec vous ». Les mots ne sont pas du tout au hasard, ils ont une force extraordinaire. Jésus offre la paix qui est le fruit de la passion et de la résurrection. Souvenons-nous du thème de la paix quand Jésus est arrivé à Jérusalem. « Jérusalem, tu n'as pas voulu de cette paix que je t'ai apportée. » Pour le coup, on pourrait dire, sur la question de la mémoire, c'est que Jésus, lui, ne garde pas mémoire du refus de Jérusalem. Ce qu'il voulait, c'était donner la paix. Il va jusqu'au bout. Souvenez-vous, la naissance de Jésus, paix aux hommes, de bonne volonté. Jésus ressuscité, les premiers mots qu'il dit, c'est « la paix soit avec vous ». La paix, fruit de la passion et de la résurrection. Voilà, à relier donc 19 verset 42. Les paroles de Jésus résonnent d'autant plus fort dans le cœur du lecteur de l'Évangile qu'on n'entend pas dans le récit la voix des apôtres. Toujours l'exégèse narrative, prendre en compte le récit. Matériellement, on va dire qu'il y a eu un dialogue, mais en tout cas, le récit ne rapporte pas les paroles des apôtres. Ça veut dire que c'est la parole de Jésus elle-même qui emplit tout l'espace. Et le lecteur se laisse habiter par cette parole. Il y a comme une hâte dans les paroles de Jésus qui veut se faire reconnaître, donner le sens de ce qui s'est passé, ouvrir une perspective. Donc tout est centré sur la parole de Jésus, parole de paix. Deuxième point, Jésus précisément, se fait reconnaître aux apôtres. Pour eux, accepter la réalité de la résurrection, c'est véritablement un défi, comme c'était le cas pour les femmes, comme pour les disciples d'Emmaüs. L'événement auquel ils ont part n'est évidemment pas concevable pour eux. Et leur joie, c'est ça qui est extraordinaire, témoigne qu'ils ont compris que Jésus était là, mais ils ne croyaient toujours pas. Dans leur joie, ils n'arrivaient pas à croire. Ce n'est pas forcément un manque de foi. C'est la prise en compte de ce décalage entre un événement et leur capacité de l'accueillir. La comparaison n'était pas totalement juste, j'en suis conscient, mais il n'empêche que s'il y a quelqu'un que vous pensiez complètement perdu, qui ne reviendrait jamais, on est dans une joie, on dit « c'est pas vrai, c'est toi, je ne crois pas, c'est pas possible ». C'est une espèce de joie tellement débordante qu'on ne trouve pas les mots, on ne trouve pas le... Voilà. La réalité du fait, en fait, excède les outils psychologiques, conceptuels, intellectuels qu'ils possèdent pour pouvoir s'en saisir. Et donc Jésus va les aider à faire l'expérience de sa présence à travers la nourriture. La vue ne suffit plus pour distinguer un corps véritable d'un fantôme. Eh bien, il mange pour que les disciples réalisent bien qu'il est ressuscité et présent dans sa chair. Ce qui est intéressant aussi sur la question de la résurrection par rapport à toutes les théories qu'on a pu nous dire. Jésus, c'est un nouveau mode de présence, mais en réalité, ce n'est pas vraiment la chair. La chair est transfigurée, mais c'est bien Jésus dans son humanité qui est ressuscité. C'est une manière d'édulcorer la réalité de l'incarnation. Évidemment, l'Évangile est très très précis sur cette question. Troisième point, Jésus, après s'être fait reconnaître, après cette étape de reconnaissance, comme pour les disciples d'Emmaüs, la reconnaissance est fondamentale, Jésus va pouvoir donner le sens de ce qui s'est passé. Il va rappeler aux apôtres ce qu'il avait dit sur la route de Jérusalem, comme les deux hommes près du tombeau. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Maintenant, vous savez, quand il dit « il faut », vous pouvez faire l'explication par vous-même, Jésus renvoie à la cohérence de ce projet de Dieu. Jésus a interprété les Écritures avec les disciples d'Emmaüs. Maintenant, il va en donner l'intelligence. C'est-à-dire pour les disciples, la capacité d'en pénétrer le sens, à rattacher sûrement au fait que c'est le groupe des apôtres qui auront la mission d'être, j'allais dire, ce noyau de l'Église qui va se répandre. C'est pourquoi Jésus les associe à sa propre intelligence, sa propre compréhension des Écritures. Cette intelligence que Jésus manifestait déjà à l'âge de 12 ans et qui étonnait les docteurs. Il en tire deux enseignements. Alors là, c'est tout à fait fondamental, je veux dire, par rapport à tout l'Évangile. Ce que je vais vous dire là, L'intelligence des Écritures, c'est quoi? C'est ce qui concernait les événements de sa passion et de sa résurrection. D'accord. On est d'accord. Les Écritures annonçaient les souffrances du Messie, le serviteur souffrant, d'Isaïe, les textes de la sagesse, Jérémie, etc. Voilà. Mais aussi, le deuxième enseignement concerne la proclamation du salut à toutes les nations. C'est cela qu'annonçaient les Écritures. La mission universelle était annoncée par les Écritures au même titre que la Passion et la Résurrection. On avait eu, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, déjà Siméon qui avait présenté Jésus comme la lumière des nations, donc donnant cette ouverture universelle. Vous voyez, comment dire ? Les Écritures que Jésus a expliquées aux disciples d'Emmaüs, dont il donne intelligence aux douze, elles nous annoncent Jésus. Ça, on y est habitué. Pour nous, ça ne pose pas de problème. Les Écritures annoncent Jésus le Messie. Maintenant, ça y est, Jésus est ressuscité, il monte au ciel. Deuxième étape, les apôtres se disent, eh ben, avec l'Esprit Saint, on va annoncer l'Évangile. Eh bien, ce n'est pas ça. C'est les Écritures annoncer la mort et la résurrection de Jésus et l'annonce aux nations. Ce qui veut dire que l'annonce aux nations, l'évangélisation, la proclamation du salut à tous les hommes, fait partie de ce qui était annoncé par les Écritures. Ça fait corps avec ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Il y a vraiment cette continuité. Jésus a vécu sa passion, il est ressuscité, il n'a pas mis en œuvre la passion, la mission. Ce sont les apôtres qui vont prolonger ce que Jésus ne fait qu'inaugurer. Est-ce que c'est clair, ça? Ça, c'est vraiment fondamental dans la structure de l'ensemble Évangile-Acte. Alors, évidemment, Jésus ne laisse pas les apôtres tout seuls. Il assortit cette annonce de la promesse du don de l'Esprit-Saint. « Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. » Il leur donne l'ordre de rester à Jérusalem pour recevoir la force d'en haut. » De même que l'Évangile a commencé à Jérusalem, c'est à Jérusalem, de Jérusalem, que partira la mission. » Je vais reprendre ce point dans la conclusion à laquelle j'arrive. » Tout d'abord, une évocation rapide du récit de l'Ascension, qui est l'épilogue de l'Évangile. Tout d'abord, il n'y a pas en Luc de rencontre en Galilée. Jésus se rend à Béthanie. Ah, aujourd'hui, vous auriez bien du mal à me dire où se situe exactement Béthanie. Si vous allez en Terre Sainte cet été, ce sera beaucoup plus facile pour vous. N'y voyez aucune assistance ni aucune opération commerciale, mais ça vaut vraiment le coup quand même de voir où se trouve exactement Béthanie. Voilà. Sur le mont des Oliviers, à l'est de la ville. Tout se passe à Jérusalem selon le plan, la perspective de Saint Luc. Jérusalem, c'est le lieu où s'accomplissent les Écritures. Chez Matthieu, chez Marc et chez Jean, enfin surtout chez Matthieu et chez Jean, il y a ce rendez-vous donné en Galilée, la Galilée des nations chez Saint Matthieu. La Galilée, c'est le lieu de l'ouverture aux nations. C'est là que Jésus va dire, chez saint Matthieu, « Allez annoncer l'Évangile à toutes les nations. » Puis Matthieu 4, quand Jésus vient s'installer à Capharnaüm, « Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Chez saint Luc, il n'est pas question des Galilées. Alors vous vous souvenez, je vous l'ai dit plusieurs fois, saint Luc a réécrit ce qu'il a reçu de Matthieu et de Marc. Il a réécrit à sa manière. Donc je pense que historiquement, Jésus est sûrement allé en Galilée. Mais dans le projet de Saint-Luc, la Galilée, ce sera les actes des apôtres. Ce sont ces territoires païens vers lesquels les apôtres vont aller. Puisque finalement la mission, je viens de vous le dire, fait corps avec ce qui était annoncé. Eh bien Jésus n'a pas besoin d'aller en Galilée, il est à Jérusalem. Mais la Galilée des nations, c'est quand les apôtres vont être envoyés pour l'annonce de l'Évangile. Vous voyez la logique littéraire de Saint-Luc, c'est une logique littéraire. Il supprime la Galilée, mais on la retrouvera dans tous les actes des apôtres. C'est-à-dire à travers la Galilée, l'idée de le lieu de la mission. Deuxième point, Jésus, levant les mains, les bénit. Alors c'est très important parce que Luc insiste sur le sacerdoce au début, hein, on commence avec le sacerdoce de Zacharie. Hein, le geste de lever les mains et bénir, c'est un geste qu'on a dans le livre de Ben Sirac, hein, Simon fils d'Onias, qui répare le temple de Jérusalem. Hein, on peut dire, voilà, Jésus, le prêtre, hein, qui vient établir ce nouveau temple. Mais c'est peut-être aussi une évocation du prêtre Zacharie, qui avait été incapable de prononcer la bénédiction sur le peuple. On peut dire qu'il y a comme une inclusion. Vous vous souvenez, c'était il y a quelques mois. Avez-vous de la mémoire? Je fais appel. Vous souvenez-vous, hein, que comme les anges dans l'évangile, hein, que je vous avais dit il y a quatre ou cinq mois, hein, Zacharie sort du temple muet, il est incapable de bénir. Hein. Il y a comme une attente. Qui pourra bénir désormais? C'est Jésus. Qui élève les mains et qui bénit les apôtres, qui à leur tour vont pouvoir bénir en allant au temple. Geste sacerdotal, on passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Enfin, ils étaient constamment dans le temple à bénir Dieu. Voilà, on retrouve le temple, le lieu de la prière, le lieu de l'offrande, le lieu où vous vous souvenez de cette petite particularité, hein, quand on dit Marie conduit Jésus au temple pour la prédication, pour la présentation. Alors, j'aime beaucoup mes confrères prêtres, prédicateurs, qui sont infiniment meilleurs que ce que je peux dire. Mais il y a un petit point sur lequel tout le monde se prend le panneau, la porte, paf, comme ça, juste dans le nez. Hein, on dit, ben voilà, Jésus est présenté au temple selon le rituel juif. Parce qu'évidemment, il est marqué selon la loi. Or, le rituel juif ne prévoit pas qu'on amène le jeune garçon au temple. Hein, on fait une offrande, hein, pour le rachat, mais c'est la femme qui fait la purification au temple. Donc, il y a une petite particularité. Là, je fais un petit retour en arrière. Hein, bien se rendre compte, au début de l'évangile, que c'était très significatif, que en racontant le fait que Marie présente Jésus au temple, ce qui n'était pas prévu par la loi, il y a un petit plus. Jésus, c'est le Seigneur qui rentre au temple de Jérusalem, le lieu de la prière. Hein, Jésus vient pour être offert au Père. Voilà. Donc on retrouve cette idée de entrer dans le temple pour prier, pour être offert. Les disciples vont rester au temple à bénir et à louer Dieu. Ils sont dans ce climat de joie, de louange, d'action de grâce qui a marqué l'ensemble de l'évangile. Cette allégresse caractéristique de Saint Luc. On a beaucoup parlé de la joie, notamment au moment de la naissance de Jésus, liée évidemment au thème du temple. Conclusion, on arrive, vous arrivez au bout de vos efforts, courage, voilà, tenez bon. Mais comme vous savez que je suis capable de mettre des parenthèses à chaque phrase, ça peut durer très longtemps. Voilà. Les récits de la résurrection de Jésus, finalement, c'est comme une mise en récit du projet de Saint-Luc. Hein? Non pas que c'est une invention, c'est les événements ont eu lieu, mais Luc va en profiter pour nous raconter quel a été son projet. Son projet, ça a été de nous montrer cette cohérence de l'histoire du salut. Ne fallait-il pas, à trois reprises, aux trois moments importants, les trois parties que je vous ai dites, le tombeau vide, Emmaüs et la rencontre avec les disciples, à chaque fois, il y a le « ne fallait-il pas », « il fallait ». Donc, le projet de Luc, c'est de montrer la cohérence du projet de Dieu. Les Écritures sont accomplies en Jésus. Et l'accomplissement des Écritures nous ouvre sur la passion-résurrection et sur la mission universelle. Comme je vous l'ai dit, les actes des apôtres s'inscrivent dans la continuité directe de l'histoire de Jésus. Ce qui veut dire que la conclusion du troisième évangile, avec l'ascension, est provisoire. C'est une conclusion provisoire. Le lecteur est à un seuil. En terminant l'évangile, le lecteur est un peu comme les apôtres qui sont dans l'attente de l'effusion de l'Esprit-Saint pour pouvoir être envoyé en mission. Celui qui a lu l'Évangile est comme Théophile, il devient serviteur de la parole à son tour et il va être prêt lui aussi à entrer dans l'histoire missionnaire qui va s'ouvrir au jour de la Pentecôte. Voilà, Saint-Luc a réussi à nous entraîner. Et vous allez me dire, quel coup de pub extraordinaire pour dire « il faut revenir l'année prochaine pour les actes des apôtres ». Mais il n'empêche qu'il y a vraiment cette continuité. D'ailleurs, vous le verrez, si vous lisez les actes des apôtres, vous le ferez, vous n'attendrez pas, mais vous verrez bien que vous avez les mêmes éléments qui sont repris au début dans une perspective qui va être celle de la mission universelle. Voilà, il reste quelques minutes. S'il y a des questions, oui, Ferial.
C'est peut-être une question bête, mais...
C'est les meilleurs.
Les disciples.
Oui.
Suivaient Jésus.
Oui.
Ils connaissaient.
Oui.
Ils savaient comment il apprenait. Ils connaissaient sa voix, sa silhouette. Comment ils ont parlé quoi ?
Oui, ben c'est exactement, je crois que c'est ce que nous montre l'Évangile, c'est que matériellement, il ne suffit pas d'avoir une personne, je crois que c'est d'avoir une personne sous nos yeux pour dire qu'on la connaît véritablement. Je crois qu'il y a, il y a des situations dans lesquelles on voit des personnes après une épreuve, après soit après une maladie, soit au contraire après un moment où elles se sont reconstituées, ou de fait, les traits peuvent changer. Ça,
l'opération, d'accord, mais là...
Oui. Ben là, je pense qu'il y a quelque chose de transfiguré dans la personne de Jésus. Je pense qu'il y a quelque chose de transfiguré dans la personne de Jésus. Oui.
J'ai fait une expérience. J'ai fait une expérience de pèlerin d'Emmaüs. J'étais au Chili avec ma fille qui est là-bas, qui a un petit enfant. Un jour, on va venir chez elle, elle avait un petit bébé sur les bras, et elle dit, la voisine va manger de la gargouille pendant un temps. Et puis, de loin, elle dit, tiens, cette fille ressemble beaucoup à ma fille, et la fille, elle dit, tu me... Très bien. Je m'approche encore un petit peu plus,